VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 1er octobre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Alberson.
Nous commençons par les titres.
En Somalie, une dizaine d'islamistes Shebab ont été tués dans deux attaques de drones d'Africom.
Le Burundi met en garde l'ONU contre toute intervention dans l'élection présidentielle de 2020.
En République centrafricaine, grande marche hier à Bangui de la plateforme Ezingo Biani.
Ici à Washington, le leader du Sénat ne pourra pas s'opposer, le cas échéant, à un procès contre le président Donald Trump à la Chambre haute.
Confusion politique au Pérou où le président a dissous le Parlement qui a riposté en le suspendant.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Somalie, l'armée américaine a lancé deux attaques de drones, tuant 10 islamistes Shebab et détruisant un véhicule, en réaction à une attaque audacieuse visant une base américaine au nord-ouest de Mogadiscio, la capitale. Le point avec Abdourahmane Dia.
La base de Baledogle est ce que l'armée américaine appelle une installation de contingence où les équipes des forces spéciales entreposent leur armement et leur équipement. Elle est utilisée par l'armée américaine pour ses frappes aériennes à l'aide de drones contre les Shebab ou contre les membres du groupe État islamique en Somalie. Le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, précise que l'attaque des Shebab a été menée avec l'aide d'une voiture piégée. Cette attaque, bien qu'inefficace, démontre à quel point les Shebab représentent une menace directe pour les Américains, pour nos alliés et nos intérêts dans la région, a commenté le général William Gaylor, le chef des opérations de l'AFRICOM. De fortes explosions, suivies par des échanges de coups de feu, ont été entendues sur la base de Baledogle, une installation qui dépend officiellement de l'armée nationale somalienne. Les Shebab ont affirmé avoir fait des dizaines de morts. Ce bilan a été fermement démenti par l'armée somalienne.
À noter qu'Amnesty International a accusé ce mardi les États-Unis d'avoir tué 3 civils dans une frappe aérienne en Somalie le 18 mars et de ne pas avoir enquêté au sujet d'informations selon lesquelles il s'agissait d'agriculteurs sans lien avec les insurgés islamistes Shebab. AFRICOM n'a fourni aucune preuve que ces 3 hommes tués lorsque leur voiture a été touchée étaient des Shebab, affirme l'ONG. Le porte-parole de l'AFRICOM, John Manley, a déclaré à l'AFP que, comme expliqué à Amnesty International, sur la base de méthodes détaillées et un ensemble de rapports des services de renseignement, le commandement américain pour l'Afrique est raisonnablement certain que la voiture et ses occupants appartenaient aux Shebab et soutenaient activement leur activité opérationnelle.
AFRICOM a d'autre part annoncé hier avoir tué 7 membres présumés du groupe État islamique dans une frappe aérienne menée dans le sud de la Libye, la 4e du genre en moins de 2 semaines. Notre offensive contre ce groupe et d'autres réseaux terroristes en Libye dégrade leur capacité à mener efficacement des opérations contre le peuple libyen, a commenté le général William Gaylor, chef des opérations d'AFRICOM. Cette nouvelle frappe porte à 43 le nombre de djihadistes tués depuis le 19 septembre par les forces américaines en Libye.
En République centrafricaine, grande marche hier à Bangui de la plateforme Ezingo Biani. Plusieurs centaines de personnes, 2000 selon les organisateurs, se sont mobilisées sur l'avenue Barthélémy Boganda. Ces manifestants ont remis à la fin de la marche un mémorandum de sortie de crise aux autorités centrafricaines et à la communauté internationale. De Bangui, compte rendu de notre correspondant Freeman Sipila.
Malgré des appels au boycott lancés dans plusieurs quartiers de la capitale centrafricaine, le mouvement Ezingo Biani réussit à mobiliser plusieurs centaines de personnes dans la rue. Gervais Lakosso, coordonnateur de ce mouvement qui regroupe la société civile et les partis politiques de l'opposition.
Il devrait avoir au moins 4 fois plus de personnes que cela, mais les gens ont manqué de courage. Mais vous avez vu, on s'approche de 2000 personnes qui se sont mobilisées pour cette marche. Et ça veut dire que les centrafricains savent braver les menaces, les des intimidations politiques.
Encadré par des forces de l'ordre, il est blindé de la MINUSCA. L'itinéraire initialement prévu n'est pas respecté. Gervais Larousseau.
Le ministre de la Sécurité publique a fait une sorte de déni volte-face. L'absence du chef de l'État au pays n'est pas une raison pour changer l'itinéraire. Il ne connaît pas l'administration du comité. Donc, le chef d'État n'est pas là, il a des collaborateurs.
Un mémorandum dit de sortie de crise est remis aux autorités centrafricaines et à la communauté internationale. Le mouvement Izingo-Viani revendique du gouvernement 12 choses, entre autres la mise en place d'un processus sérieux de désarmement, l'abrogation du déclinement les chefs des 12 armées à des postes de responsabilité de l'État et le démantèlement de toutes les barrières illégales dans le pays. Freeman Sipila Bongi pour VOA.
Le chef de la diplomatie du Burundi, Ezekiel Nibigira, a mis en garde l'ONU contre toute velléité d'intervenir dans l'élection présidentielle de 2020, ce qui serait considéré, selon le chef de la diplomatie burundaise, comme une atteinte à sa souveraineté. Eddie Isango.
Ezekiel Nibigira, devant l'Assemblée générale des Nations unies, a déclaré que le processus électoral est une affaire interne et qu'un accompagnement international ne doit pas donner droit à des actes d'interférence. Il a ajouté que toute tentative de vouloir créer un nouveau rôle pour s'occuper des élections à la place des Burundais serait une atteinte à la souveraineté nationale. Il a réclamé à nouveau le retrait de son pays du programme du Conseil de sécurité, car selon lui, le maintien de son pays à ces programmes est dû à des raisons politiques et des intérêts extérieurs qu'il n'a pas spécifiés. L'élection présidentielle, celle des députés et des conseils municipaux du Burundi, se tiendra le 20 mai 2020. Au pouvoir depuis 2005, le président Pierre Nkurunziza a annoncé à la surprise générale qu'il n'allait pas se représenter alors que la nouvelle constitution de 2018 le lui permet.
En Ouganda, les civils sont interdits de porter un béret rouge par le gouvernement, estimant qu'il s'agit d'un accessoire militaire officiel. L'opposant Bobi Wine et ses partisans utilisent le béret rouge comme symbole de la résistance au régime du président Yoweri Museveni. Eric Manirakiza.
Le gouvernement a publié ce lundi une liste de vêtements et accessoires militaires dont le béret rouge, soulignant que leur possession par des civils est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. Le code vestimentaire des forces de défense du peuple ougandais a été inscrit dans la loi. C'est félicité le général Richard Karemire, porte-parole de l'armée, précisant que cette loi est le fruit d'un processus lancé plusieurs années auparavant. En déplacement à l'étranger, l'opposant Bobi Wine, qui a fait du béret rouge un symbole de résistance, n'a pas réagi à cette annonce, mais Ivan Boué, un responsable de son mouvement, a affirmé qu'ils vont continuer de porter le béret. Selon lui, le gouvernement tente d'interdire le mouvement pouvoir du peuple, mais qu'ils seront prêts à faire face à n'importe quelle action du gouvernement. Le député Bobi Wine, Robert Yagulani, de son vrai nom, est chanteur de profession. Il est devenu l'un des opposants les plus critiques du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. Il a été arrêté plusieurs fois et les autorités l'ont empêché à plusieurs reprises de se produire en public. Bobi Wine a annoncé fin juillet sa candidature à la présidentielle de 2021.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Ici à Washington, le chef de file de la majorité républicaine au Sénat américain, Mitch McConnell, a déclaré lundi qu'il n'aurait pas d'autre choix que d'autoriser la tenue d'un procès si la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, venait à voter l'impeachment ou la mise en accusation du président Donald Trump. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Cette déclaration tend à repousser les spéculations selon lesquelles Mitch McConnell, le leader de la majorité républicaine au Sénat, compte user de sa position pour faire dérailler la procédure de destitution engagée en septembre par les démocrates en tentant d'empêcher le cas échéant la tenue d'un procès au Sénat. « Je n'aurai pas d'autre choix, les règlements du Sénat sont très clairs », a-t-il dit à la chaîne de télévision CNBC. Monsieur McConnell a fait cette annonce alors que trois commissions de la Chambre des représentants ont sommé lundi Rudy Giuliani, l'avocat personnel du président américain, de transmettre des documents liés aux pressions exercées sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu'il ouvre une enquête contre Joe Biden. D'après le Wall Street Journal, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a lui aussi pris part à l'entretien téléphonique entre Messieurs Trump et Zelensky, une information à même d'attirer l'attention des démocrates qui ont réclamé à Monsieur Pompeo des documents concernant des contacts avec le gouvernement ukrainien. Le président Trump, pour sa part, a passé une grande partie de la journée de lundi à diriger sa colère contre le président démocrate de la Commission du renseignement de la Chambre des représentants, Adam Schiff, demandant sur Twitter que celui-ci soit arrêté pour trahison.
Et confusion aujourd'hui au Pérou, où le président Martin Vizcarra a prononcé la veille la dissolution du Parlement dominé par l'opposition fujimoriste. Le Parlement a riposté en le suspendant pour un an et en nommant une présidente intérimaire, la vice-présidente Mercedes Arauz, une économiste de 58 ans qui a prêté serment dans la foulée. Cette crise est l'aboutissement d'une querelle politique de plusieurs années au Pérou au sujet du mode de nomination de juges au tribunal constitutionnel.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La minute éco, Nanit Talani.
Le Mali prévoit 4 nouvelles levées de fonds sur le marché sous-régional au cours des 3 derniers mois de l'année pour récolter 65 milliards de francs CFA, dont 45 milliards de francs CFA d'obligations assimilables. Le Mali ambitionnait de mobiliser près de 100 milliards de francs CFA au 4e trimestre de 2019. La révision à la baisse de ces fonds est tributaire de la performance de ses recettes douanières au premier semestre. La Tunisie a signé des accords de coopération agricole avec le Sénégal, le Niger et le Burkina Faso pour renforcer la recherche et la formation agricole ainsi que la gestion des ressources en eau et l'irrigation. L'an dernier, la Tunisie a exporté 29% de ses produits agricoles vers le reste du continent africain. Pour terminer cette minute éco, la Banque centrale du Zimbabwe interdit l'achat et la vente d'argent liquide via les services électroniques à des taux élevés. Faute de réserves suffisantes de cash, les Zimbabwéens ne peuvent retirer que de très faibles sommes de leurs comptes bancaires. Des opérateurs téléphoniques proposent à leurs clients de l'argent liquide moyennant des commissions exorbitantes pouvant atteindre 40% alors que le pays est confronté au retour de l'hyperinflation.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Championnat du monde d'athlétisme, Halima Nakai, championne du 800 mètres.
Oui, l'Ougandaise a été sacrée devant les Américaines Ravi Rogers et Haji Wilson. Halima Nakai a battu son record personnel lors de cette course en finissant en 1:58.04 en l'absence de la double championne olympique sud-africaine Caster Semenya, privée des mondiaux en raison de son refus de suivre un traitement pour faire baisser son taux de testostérone. Nakai s'était classée troisième lors des Jeux africains le 27 août à Rabat au Maroc.
Béatrice Tiepkoch a remporté le 3000 mètres steeple.
La Kenyane a été sacrée championne du monde du 3000 mètres steeple en 8:57.84. Béatrice Tiepkoch, qui détient le record du monde de la distance, a devancé l'Américaine Emma Coburn et l'Allemande Geza Felicitas Krause. C'est le premier titre mondial pour la Kenyane qui avait terminé au pied du podium au JO de Rio en 2016 et au championnat du monde à Londres il y a 2 ans. Pour sa part, l'Éthiopien Mukhtar Idriss, champion du monde du 5000 mètres en 2017, a conservé son titre en 12:58.85 devant son compatriote Selemon Bariga, 19 ans, et le Canadien Mohamed Ahmed. Le jeune prodige norvégien Jacob Ingebrigtsen a terminé 5e.
La Nigérienne Aminatou Seyni, privée du 400 mètres.
La spécialiste africaine de l'épreuve n'a pas pu s'aligner sur le tour de piste à cause du nouveau règlement sur les athlètes hyperandrogènes. « Oui, on m'a interdit de participer aux 400 mètres », a déclaré Aminatou Seyni en zone mixte après avoir couru les séries du 200 mètres, une distance où elle est moins performante. Depuis mai, un nouveau règlement de l'I2AF demande aux athlètes féminines hyperandrogènes de suivre un traitement pour faire baisser leur taux élevé de testostérone. Pour pouvoir concourir sur les distances allant du 400 mètres au 1000, l'IDSAF estime que ces athlètes ont un avantage physiologique injuste sur les autres.
Ligue des champions ce soir en Europe.
Tottenham accroché chez l'Olympiakos 2-2 après avoir mené 2-0, accueille le Bayern Munich du Polonais Robert Lewandowski, 10 buts en 6 matchs de Bundesliga. Dans le groupe A, le Paris Saint-Germain, privé de Neymar et d'Edinson Cavani, mais avec Kylian Mbappé, va tenter de confirmer sa large victoire inaugurale contre le Real Madrid 3-0 lors de son déplacement à Istanbul face à Galatasaray. Dans l'autre match du groupe A, le Real Madrid voudra réagir à Bernabeu face à Bruges. Parmi les autres rencontres de la soirée, Manchester City reçoit le Dynamo Zagreb, surprenant leader du groupe C après avoir étrié l'Atalanta Bergame 4-0 en ouverture. Dans le groupe D, la Juventus devra rectifier le tir à Turin face à Leverkusen après avoir concédé le nul 2-2 chez l'Atlético Madrid alors qu'elle menait 2-0.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, on assiste depuis samedi à un mouvement de population de plusieurs villages du nord vers la ville de Kongoussi. Ces populations ont pris la fuite suite à une série d'attaques ciblées dans la région, attaques qui ont fait au moins 26 civils tués selon les médias locaux. Parmi les personnes qui ont fui leur village, Bruno Ouedraogo, 30 ans, joint par Bagasikoura à Kongoussi, il explique d'abord pourquoi lui et ses proches ont dû fuir.
Il y a eu des attaques terroristes samedi. On a eu un refus, bon, on s'est déplacé pour venir à Kongoussi. Le village de Kongoussi qui a été attaqué. C'était aux environs de 6h, en tout cas au petit matin. Et puis, bon, les gens ont pris peur, ils ont tué des gens. D'autres, en tout cas, ont pris calme, fuir, se casser dans les champs et autres. Là. Et puis, bon, après ça, les gens, en tout cas, ont tué bagages pour venir à Kongoussi.
Quand vous dites les gens, on parle de combien de personnes?
C'est des milliers, hein, des milliers de personnes.
Et vous, vous êtes venu seul?
Nous sommes venus avec la famille. La famille, les enfants, les parents et puis moi, les grands-parents.
Et vous avez combien d'enfants avec vous là-bas?
3 enfants.
Et ça vous a pris combien de temps? Ça fait combien de kilomètres entre Zimtenga et Kongoussi?
Zimtenga et Kongoussi, en tout cas, ça fait autour de 20-25. Et le village en question et puis Kongoussi, en tout cas, c'est un peu moins de 20 kilomètres.
Ça vous a pris combien de temps?
Une journée de marche.
Comment est venue la décision? Il y a eu cette attaque et à un moment, qui a décidé qu'il faut partir? Comment ça s'est passé?
Bon, c'est à l'unanimité, bon, les gens ont eu peur. En tout cas, on a tous eu peur. On a dit en tout cas, ça a été fait, qu'on ne sait pas. Est-ce que ces derniers vont revenir? Ils ne vont pas revenir, on ne sait pas.
Et qu'est-ce que vous avez pris avec vous?
Quelques bagages, on a pris comme quelques sacs, quelques nappes. Et puis, quand on est presque arrivé, en tout cas, on n'a pas encore pu enlever quelque chose comme ça avec quoi on peut venir avec.
Qui vous a accueilli à Kongoussi? Est-ce que les autorités vous ont reçu, vous fournissent du matériel pour dormir et aussi pour vous nourrir?
En tout cas, c'est un parent qui était à Kongoussi. En tout cas, ils nous ont accueillis. Bon, ils ont donné, en tout cas, pour le moment, le minimum pour nous débrouiller. On a eu des initiatives locales aussi. Bon, les jeunes gens, en tout cas, des volontaires, des personnes de volontaires qui, en tout cas, se fournissent, qui préparent le repas pour des gens et puis, bon, les donnent à boire.
Et les autres qui n'ont pas eu de parents pour les accueillir, vous avez leurs nouvelles où ils dorment?
Bon, il y a certains qui doivent avoir des tonnes en tout cas.
Si vous aviez un message à adresser au gouvernement, qu'est-ce que vous avez envie de dire?
En tout cas, ce que nous souhaitons seulement, c'est en tout cas vraiment sécuriser la zone, déployer vraiment un renfort et l'équipement vraiment à mesure d'assurer vraiment la population, puisque bon, il y a les récoltes qui sont toujours là, afin que les gens puissent en tout cas repartir, récolter et bon, pouvoir s'installer.
Bruno Ouedraogo, un déplacé joint à Kongoussi au Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Bénin, malaise au sein du parti de l'ancien président Yahi Boni. Ce parti est divisé depuis que le ministère de l'Intérieur a délivré à une faction de cette formation politique le document qui rend son existence légale selon les dispositions de la charte des partis politiques. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
C'est au cours d'une conférence de presse dimanche que des cadres du parti ont rejeté le récépissé délivré par le ministre de l'Intérieur, Sakala Fia. Ils pensent que le Congrès ayant éjecté les principaux responsables du parti tels que Yahi Boni, Valentin Janotin et Komi Koutché, s'est fait en catimini et ne respecte pas les tests du parti. Pour Zenazata Sou, coordonnateur au plan national des forces Corée.Bénin émergent, ce certificat qui circule n'est pas celui du parti dont il est le coordonnateur.
Nous rejetons ce fameux Congrès qui aurait élu Paul Rompé comme secrétaire exécutif national. Et ce n'est pas un jeu. Ils ont pactisé avec l'adversaire
pour détruire le parti. Parce que dans tous les cas, ça introduit un débat au niveau du parti. Ils vont répondre absolument devant les instances.
Le président Yahya Boni, depuis la France, a déploré qu'une telle étape importante de la vie du parti ait été franchie avec ruse dans une démarche visant à affaiblir la résistance que mène l'opposition à laquelle appartient le parti pour le retour de la démocratie et la paix au Bénin. Les cadres du parti sont clairs, ce certificat est de nul effet et ne saurait donner mention à quiconque de représenter le parti. Selon Dr. Adam Sounon, membre du bureau politique, ce certificat délivré par le ministère est un faux papier.
C'est un faux papier tout simplement parce que la démarche qui a conduit à sa délivrance n'est pas celle recommandée ni par les tests du parti FCBE, moins encore par la charte des partis. Qui vous souviennent, aujourd'hui, sur la base d'un congrès constitutif dont personne n'a connaissance, ni du lieu, ni de la date, ni du jour, ni des participants de sa tenue, on délivre un récépissé. Pour nous, c'est un faux papier qui ne peut servir en aucun cas à prendre part à aucune compétition politique au Bénin.
Poulel, ayant obtenu le précieux document, il fallait aller vite afin de donner une base légale au parti qui, sans le certificat de conformité, ne faisait pas le poids sur l'échiquier politique au Bénin. Paul Rompuy, le nouveau secrétaire exécutif national du parti.
Il n'existe qu'un seul parti FCBE aux yeux de l'État aujourd'hui. Et donc, nous tous, nous sommes dedans. Donc, je crois que le reste, c'est des soubresauts, des gens qui pensent qu'on peut utiliser d'autres moyens pour dégager le pouvoir, mais nous on pense que ce n'est pas la voie démocratique.
Cette crise liée à la délivrance du certificat de conformité aura révélé au grand jour des divergences profondes au sein du parti qui se proclame chef de file de l'opposition. De Cotonou, il est fait à donner pour VO Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En Ouganda, les civils n'ont donc plus le droit de porter un béret rouge, le gouvernement estimant qu'il s'agit d'un accessoire militaire officiel. Pour l'analyste politique Athanase Karayenga, joint par Irénée Herman Umbo, il s'agit d'une décision qu'il faut prendre avec beaucoup d'humour.
Je suis très surpris parce que empêcher des bérets rouges pour que l'opposition ne manifeste pas sa présence dans le champ politique, c'est absolument grotesque, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Et je pense qu'il vaut mieux le prendre comme une boutade.
Mais c'est une décision quand même du gouvernement. Quand vous parlez d'humour, est-ce que ce n'est pas ridiculiser la décision?
Oui, il faut la ridiculiser. Oui, il faut se moquer de cette décision. Oui, elle est ridicule, elle est grotesque. Elle n'a pas de sens, ni en Ouganda, ni ailleurs dans le monde. Un président, un gouvernement n'a pas à se mêler de l'habillement, de l'accoutrement des citoyens. Même si le citoyen veut exprimer un sentiment politique, le gouvernement n'a rien à faire dans cette matière.
Le gouvernement a bien précisé qu'il s'agit d'un accessoire militaire officiel et non civil.
Est-ce que vraiment, si c'était un accessoire militaire, ça fait combien de temps que M. Museveni est au pouvoir? Il se rend compte seulement maintenant, parce qu'il a un opposant qui a beaucoup d'humour, qui a beaucoup de talent aussi comme musicien, semble-t-il, mais aussi surtout qui galvanise les foules. C'est seulement maintenant qu'il se rend compte qu'un accessoire de vêtements peut avoir un signe politique. Je pense qu'il faut vraiment rigoler, parce qu'il ne faut pas prendre ça au sérieux.
Pensez-vous que c'est l'opposant Bobby Wine qui est visé par cette décision, c'est ça?
C'est clair, mais c'est aussi ses adeptes ou ses admirateurs ou qui sont visés. C'est en fait une façon de museler une certaine opinion qui ne partage pas nécessairement de projet politique avec Museveni.
À vous entendre, l'Ouganda a des problèmes plus sérieux à résoudre que d'interdire le port d'un béret rouge, c'est bien cela?
Franchement, l'Ouganda a autre chose à faire que... oui, l'Ouganda peut lutter pour la sauvegarde du lac Victoria qui est en train de mourir de pollution, mais s'occuper des bérets rouges, franchement, je trouve que c'est très en dessous de ce que l'Ouganda peut faire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et Museveni en particulier, comme je le disais, qui a beaucoup, beaucoup de sens de l'humour, il aurait dû traiter ça avec une distance en rigolant ou en plaisantant, ou de penser à un drame politique. Ça n'a pas de sens.
C'était, joint à Paris, l'analyste politique Athanase Karayenga.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le long des rives du lac Malawi, la pauvreté et les pénuries alimentaires sont devenus des problèmes chroniques dus à la diminution des prises de poissons. Les femmes démunies ont parfois recours aux rapports sexuels avec des pêcheurs pour s'en tirer. Nous dit de la ville de Mangoshi, Lamek Massina, dans ce reportage repris ici par Salwa Jafari.
Mangoshi est une petite ville nichée entre le lac Malawi et le lac Malombe. Dès les premières lueurs du jour, les femmes convergent vers la plage pour accueillir les pêcheurs. Le bruit court que beaucoup d'entre elles se prostituent en échange de quelques poissons. Cécilia Iman fait partie du comité de la plage du village.
La plupart des pêcheurs se rendent au lac avec pour but de trouver des femmes. Mais ces relations ne durent pas et elles ne font que poser des problèmes aux villageoises.
Le sexe pour le poisson, ou fish for sex, est un phénomène réel, commun dans de nombreux pays en développement. Les femmes commerçantes sont souvent contraintes à avoir des relations sexuelles avec les pêcheurs qui les approvisionnent.
Par exemple, j'ai 3 dollars ou 2000 kwachas dans la poche. Je dois me rendre au lac pour acheter du poisson. Et là, un pêcheur m'offre du poisson gratuitement. Compte tenu du fait que je n'ai pas mangé la nuit dernière, mon enfant non plus, j'accepte son offre.
Une offre empoisonnée que ces femmes démunies ont du mal à rejeter.
Si la prévalence de l'infection par le VIH augmente dans notre région, c'est en grande partie à cause des pêcheurs. Les femmes sont trop désespérées pour refuser le poisson. Les femmes tombent souvent enceintes. Les pêcheurs rejettent cette responsabilité, les laissant se débattre toutes seules pour prendre soin des bébés.
Bien que les relations sexuelles transactionnelles entre les femmes commerçantes et les pêcheurs du lac Malawi soient monnaie courante, la stigmatisation et la discrimination rendent difficile l'identification de ceux qui en sont à l'origine. Laïka Atibou est marchande de poissons.
Je fais de mon mieux pour travailler à la pièce afin d'amasser des fonds pour acheter du poisson. Parce que j'ai peur. Si je fais cela, je peux contracter le VIH. Et si je contracte le VIH, je ne pourrai plus nourrir mes enfants car je prends soin d'eux toute seule.
Les pêcheurs avec lesquels nous avons parlé nient toute implication.
Nous ne faisons pas ça. Si une femme n'a pas assez d'argent pour acheter du poisson, nous ne lui demandons rien.
Je viens au lac pour nourrir ma famille. De telles tendances sont plus courantes chez les célibataires. Ce sont eux qui s'adonnent à cette pratique.
Cependant, diverses recherches montrent que le sexe pour le poisson au Malawi est plus répandu entre le mois de décembre et mars, car le pays est gravement touché par les pénuries alimentaires à cette époque. Pour enrayer le problème, les chefs de communauté ont mis en place des initiatives d'autonomisation économique pour s'assurer que les femmes disposent de leur propre source de revenus au lieu de proposer des services sexuels aux pêcheurs. Ali Mohamed est le représentant local du gouvernement.
Nous avons donné aux femmes le pouvoir de former des groupes afin qu'elles puissent commencer à s'octroyer des prêts entre elles pour créer des entreprises. En agissant de la sorte, nous nous assurons que les femmes sont indépendantes et ont assez de moyens pour se défendre et refuser les avances des hommes.
YouthNet and Council, une ONG locale qui travaille à lutter contre la propagation de l'infection par le VIH au Malawi, a fait observer que malgré une sensibilisation accrue, les pêcheurs du lac Chiloa font la queue pour le sexe. Les rapports indiquent que les pêcheurs offriraient d'avoir des relations sexuelles avec une femme en échange de 15 douzaines de poissons si aucun préservatif n'est utilisé. 3 douzaines dans le cas contraire.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Nikolai Ivanov. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.